Les pieds sur terre, quartier d'été, Sonia Kronlund.
Personne ne sait ce qui se passe aujourd'hui parce que personne ne veut qu'il se passe quelque chose.
L'histoire se passe dans le Loir-et-Cher. La jeune femme s'appelle Aurore. Son pseudo sur les réseaux, c'est Petite Cigogne ou Ange Sincère. Elle se qualifie volontiers de nounou prénatale, ce qu'on appelle généralement une mère porteuse ou une mère de substitution. Elle a déjà eu 4 enfants et propose ses services sur un site spécialisé. Lorsqu'elle accepte de porter l'enfant d'un couple homosexuel pour la première fois en 2012, c'est avec grand cœur qu'elle se lance dans l'aventure. La compensation financière de 15 000 euros n'est pas l'essentiel, dit-elle. À mesure que sa grossesse se poursuit et que sa relation s'approfondit avec le couple, qu'il se voit pour les échographies et divers examens, Aurore découvre que les deux hommes s'entendent fort mal. Elle assiste à de nombreuses disputes autour de l'enfant, parfois violentes, elle pressent un drame. C'est comme ça en tout cas qu'Aurore justifie ce qu'elle va faire. Car après quelques mois de grossesse, elle change d'avis et trouve un nouveau couple de garçons désireux d'avoir un enfant. Au premier couple, elle annonce qu'elle a eu une fausse couche et au second, qu'elle porte leur enfant. À la naissance, c'est donc le second couple qui accueille le bébé et l'élève jusqu'à ce que le premier se manifeste et qu'il s'en suive, une bataille juridique qui dure encore. Quelques années plus tard, Aurore récidive. Elle découvre cette fois que le couple dont elle porte l'enfant appartient à une secte. Elle les trouve louches, bizarres. Elle vend l'enfant à un autre couple et le déclare mort-né pour les premiers. Aurore sera condamnée à 1 an de prison avec sursis pour escroquerie. Elle se défend d'avoir voulu seulement donner du bonheur. Le sort des enfants n'est toujours pas réglé. En attendant, Adila Benedjaizou, célibataire de 44 ans, a décidé d'avoir un enfant hors la loi, puisque ces deux conditions l'excluent en France de la procréation assistée. Elle est donc partie en Espagne faire une PMA et elle se demande tout de suite combien elle est prête à payer pour avoir un enfant. PMA hors la loi, épisode 3, le transfert, c'est un podcast dont les 6 épisodes sont tous téléchargeables sur les bonnes applis de podcast, mot-clé PMA hors la loi. Et c'est évidemment signé Adila Benedjaizou.
En réalité, on ne sait jamais ce qui se passe, on sait simplement ce qu'on veut qu'il se passe. C'est comme ça que les choses arrivent.
Bonjour.
Bonjour Adila, vous allez bien?
Oui, ça va, et vous?
Très
vous
bien,
êtes Fériel, je
suppose. Oui, pardon, je ne suis pas présentée. Ça va être le consentement assigné pour l'anesthésie.
Ok.
D'accord. Vous êtes venue à Jeun, on est d'accord?
Oui.
Ok, parfait. Et puis, après, il faudra mettre donc, la charlotte, les chaussons et puis la blouse.
D'accord.
Je vais juste voir donc, avec mes collègues pour le soin et... On vient
loger.
Merci.
Et tu vois, il est déjà pull dedans, là. Et nous, on a percé le truc pour qu'ensuite, il n'y ait plus qu'à hop, l'insérer dans le vagin. Ensuite, tu pousses au fur et à mesure et chlic.
Je suis célibataire, en fait, et j'aimerais avoir un enfant par fécondation in vitro.
Elles feront toutes des bébés toutes seules quand elles voudront.
Favorable à ce qu'on étende la PMA aux femmes seules et aux couples femmes.
En fait, moi, je ne suis pas née d'une étreinte.
Il y en a qui disent que c'est dégoûtant.
Jamais je me suis dit, même par rapport à mon homosexualité, ça va pas être possible.
Faut dire que papa est trans, mais maman, elle est gouine.
Procreatex. Para español, marque uno.
Et le problème, c'est que plus t'essayes, plus t'as peur. Après un traitement de stimulation hormonale assez laborieux, on va me faire une ponction ovarienne. À Paris, je me suis injecté un médicament qui a déclenché mon ovulation et j'ai pris le premier avion pour Madrid. J'ai enfin fait la connaissance de Fériel, avec qui je communique par téléphone depuis plusieurs semaines. Arrivé dans un pays dont je ne parle pas la langue pour subir une intervention chirurgicale, c'est pas la situation la plus rassurante que j'ai vécue.
Hola.
Bon, je suis chez Procratec. Rien que le nom, c'est quand même un peu bizarre. Ça fait un peu nom de clinique de film d'anticipation. C'est tout blanc, immaculé, tout à fait anonyme. Là, je suis dans une espèce de petite cellule blanche avec juste un chariot, quoi, pour transporter les malades. On m'a mis sur le lit un consentement assigné, une charlotte, des chaussons et une petite camisole en papier crépon. Si j'étais dans un film, probablement je ressortirais avec un rein en moins ou quelque chose comme ça. Oui.
Ok, ça va, vous êtes prête?
Ouais, je suis prête.
Je vais prendre ça.
Mais en fait, il y a une anesthésie générale?
C'est une sédation. On va vous endormir.
Ouais.
D'accord. Mais c'est pas une anesthésie générale. Vous allez avoir besoin après de 2 heures pour récupérer, d'accord?
D'accord. Ah, je pensais que je restais consciente en fait pendant l'opération.
Non, parce que ça fait assez mal.
Et donc, je vais rester endormie pendant combien de temps?
Là, ça va être un quart d'heure, 20 minutes, le temps de vous faire la ponction et après on vous réveille. Là, on attend, il y a une autre ponction qui est en cours.
D'accord.
Dès qu'elle sort, vous pouvez.
Ok.
Un peu parce que je suis documentariste, beaucoup pour me rassurer, je décide d'enregistrer tout ce qui va m'arriver durant l'opération, ce qui m'oblige à assumer un défaut dont j'ai terriblement honte. Je ronfle. Voilà ce qui est en train de se passer. On insère un cathéter à l'intérieur de mon utérus pour ponctionner les 2 follicules que j'ai fait pousser avec obstination ces 15 derniers jours. À l'intérieur de ces follicules sont censés se trouver 2 ovocytes prêts à être fécondés. Et puis, pour me réveiller, on me passe le tube de l'été.
Vous avez bien dormi?
Ah bah maintenant, je suis complètement shootée, ça va très bien.
Bon, maintenant, vous pouvez rester ici allongé. Vous devrez attendre un peu.
Ouais.
Parce que les biologistes sont en train de voir combien d'ovocytes est-ce qu'on a maintenant.
Ah oui, c'est ça, parce que j'ai 2 ovocytes.
2 follicules.
2 follicules.
Voilà.
Mais ça ne veut pas dire que c'est des ovocytes.
Voilà.
Ça ressemble à quoi un ovocyte?
À quoi ressemble un ovocyte? C'est trop petit. Je sais pas quoi exactement. Je vous laisse ici et après on revient. D'accord.
Ok, merci.
Enchantée.
Au revoir. C'est bizarre. Je pense à des. J'ai l'impression que je lutte pour pas dormir. C'est bizarre parce que je voudrais bien m'endormir, mais j'arrive pas. À quoi je pense? J'ai de la lumière sur mon front. C'est la première fois de ma vie qu'on me fait une anesthésie. C'est bizarre de faire tout ça, dépenser tout cet argent pour une chance infime que ça marche. Et j'ai un espoir parce que je me dis que. Après tout ce que la vie m'a enlevé, mon père, toutes ces morts autour de moi, elle me doit bien une vie.
Ça va?
Ouais, ça va.
Ça va mieux, vous reprenez un peu...
Ouais, je me réveille doucement.
Okay.
Ça va, je suis bien réveillée.
Bon, bah, très bien. Donc, le médecin fonctionne le liquide de vos follicules. Et c'est dans ce liquide-là qu'on trouve vos ovocytes, ok? Donc là, on en a récupéré 2, donc c'est une très bonne chose.
D'accord.
Maintenant, le biologiste est en train de travailler pour peler les ovocytes pour savoir s'ils sont matures. Et ça, on pourra vous tenir au courant soit aujourd'hui, soit demain.
Dans le processus, il y a un autre élément qui m'intrigue. Le donneur de sperme étant anonyme, je n'ai droit à aucune information sur lui. Mais j'ai compris, parce qu'on m'a demandé une photo de moi, que la clinique le sélectionne d'après certains critères physiques.
On a statué beaucoup sur votre cas.
Ah bon,
on me disait, mais attendez, il faut faire attention, quel type de peau, quel... On aurait pu trouver un Méditerranéen, au final, si vous êtes algérienne, un Espagnol serait très bien pu faire l'affaire.
Tout à fait.
Mais je pense que c'est aussi par rapport donc, à vos caractéristiques physiques et à votre groupe sanguin, une compatibilité au niveau du groupe sanguin. En plus, vous aviez mis, je crois, africaine sur votre fiche médicale. Donc, effectivement, on est africaine, mais du Nord. Et donc, voilà. Du coup, à la base, on était parti sur ça. Donc.
Et vous ne faites jamais de mélange, en fait.
Dans les cas comme le vôtre, où vous avez la peau un peu mate, comme ça, effectivement, ça peut être un latino, parce qu'ils ont la peau un peu similaire au nôtre. On a eu des cas où des femmes noires, par exemple, demandaient des caucasiens.
Ouais.
Et non, ce n'est pas possible. Point de vue éthique, il faut que le bébé lui ressemble à elle. Si par exemple les consentements étaient signés avec les deux conjoints, à ce moment-là, on sait qu'il a signé, qu'il est d'accord pour suivre l'aventure, il veut un bébé qui lui ressemble.
Ouais,
ça c'est normal.
D'accord. Ok.
Mais dans l'autre cas, on ne peut pas savoir ce qui se passe derrière, donc on préfère.
D'accord. En fait, c'est pour éviter que. Il y a des femmes qui trichent pour convaincre leur conjoint de.
Enfin, qui trichent ou qui arrivent, je suis enceinte de ton bébé.
Ah, qu'elle mente en fait.
Voilà, on ne sait pas après ce qui se passe, nous on ne rentre pas dans la vie des gens après. Donc, écoutez, si vous voulez, vous pouvez vous habiller tranquillement.
Je rentre à mon hôtel en sachant que mon donneur a les cheveux bruns, les yeux marrons, qu'il mesure 1m83 et qu'il est de type caucasien cubain.
Alors, c'était juste pour vous dire que donc on avait obtenu les deux ovocytes, on a essayé de les peler et donc il y en a un qui est bon, qui est mature, l'autre qui a un peu plus de mal, mais on va quand même lui donner une chance pour la fécondation. On va voir si la fécondation prend. Donc a priori on va sur un et on verra demain le résultat s'il y a eu fécondation des ovocytes. D'accord.
Merci.
Je vous donne plus d'infos demain, d'accord?
Ok, merci beaucoup.
Bonne journée.
Merci, au revoir.
Au revoir.
En fait, la ponction m'a rendu malade. Allongée dans une minuscule chambre d'hôtel, à 2000 km de chez moi, j'attends de savoir si la fécondation in vitro va réussir. Et je m'interroge. Jusqu'où est-ce que je suis prête à aller pour avoir un enfant? Pierre et Antonin, eux, ont parcouru plus de 8000 km pour faire un enfant avec une mère porteuse. Car la gestation pour autrui, la GPA, est interdite en France.
J'avais aucun désir d'enfant jusqu'à 30 ans. Enfin, j'imaginais même pas l'idée d'avoir un enfant. Et à 30 ans, j'ai fait un rêve dont je me souviens encore maintenant très précisément. J'avais appris qu'on donnait des bébés à la station de RER, Choisy-le-Roi, ou je sais plus où, en banlieue, et j'étais en retard, je me dis, merde, et tout, je pars. Je me retrouve là-bas à la station, et je croise plein de femmes avec leurs enfants, ils ont des beaux enfants blonds, et ils ont tous été servis, entre guillemets, et moi j'arrive et c'est trop tard, il n'y a plus d'enfants, quoi. Et j'entends un petit, ouah, ouah, comme ça, je me retourne, et sous le banc du RER, il y avait une petite fille brune avec les yeux très noirs, et je la prends dans mes mains, et je me dis, oh, c'est ma fille. Et il y a une espèce d'émotion énorme dans le rêve qui me réveille. Et à partir de ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, ça a grandi jusqu'à devenir vraiment quelque chose d'important pour moi, alors que je ne m'y attendais pas du tout.
Voilà. Et toi, Pierre, tu te souviens?
J'ai du mal à me souvenir d'un moment précis, mais je sais que c'est quelque chose qui a toujours été présent. Même quand j'étais plus jeune, où je me suis toujours vu en fait, avec des enfants. Jamais je me suis dit, même par rapport à mon homosexualité, ça va pas être possible.
Très vite, on a su que c'était possible et que c'était une option, d'ailleurs.
Et du coup, une GPA aux États-Unis, ça coûte combien?
Je pense que c'est entre 100 et 150 000 euros.
Oui, donc il faut s'organiser. Ouais. Et c'est comme acheter un petit appart. Quoi. C'est un peu l'injustice de la gestation pour autrui. C'est des gens qui accèdent, en général, c'est des gens qui arrivent à... avoir un minimum de sous. Nous, on a été. Moi, j'ai ma famille qui m'a fait une avance sur héritage et qui m'a permis de pouvoir faire ça. Bon, sinon, je pense qu'on aurait vendu l'appartement pour.
Oui,
sans problème. Ouais.
Moi, j'avais de l'argent de côté, un peu. Et ensuite, j'ai fait un prêt à la banque. J'ai expliqué clairement, je ne me voyais pas mentir en fait pour ça. Elle était plutôt cool, très contente de pouvoir défendre le dossier ou du moins le faire passer pour avoir un prêt.
C'est quoi les premières démarches concrètes où vous...
Alors c'est ce site, hein, c'est un peu le site américain, là, Men Having Babies, voilà, Men Having Babies, où ils font un classement des différentes agences et il faut trouver une clinique.
Premièrement, il y a des entretiens avec l'agence qui nous demande, nous, ce qu'on attendrait d'une relation avec une mère porteuse, c'est-à-dire est-ce qu'on souhaiterait communiquer avec elle de manière régulière, est-ce qu'également on souhaiterait garder contact avec elle après la naissance. Et ensuite, en plus de ça, on fait une sorte de bio, donc on écrit un peu qui on est, nos vies, notre famille, pourquoi on veut un enfant, on met des photos. C'est présenté ensuite aux différentes mères porteuses, et c'est elles qui choisissent en premier, en fait, la famille avec qui elles souhaiteraient faire le projet.
Et elles choisissent un, et puis dans ces cas-là, ils nous font signe, et ils nous envoient sa bio à elles, où on voit sa famille, etc., etc. Eux, ils connaissent maintenant un petit peu le principe, l'agence, et nous matchent avec des gens qui sont... Parce que ça va de croyances, même politiques, etc., etc., pour quand même matcher des gens qui
des positions sur l'avortement.
Ouais, bien sûr.
Également, qui étaient des questions fondamentales.
Oui, il y a autant de... Il y a des questions aussi pas mal sur les grossesses en général. C'est-à-dire que si l'enfant a un handicap, si on s'en rend compte pendant la grossesse, trisomie 21, est-ce qu'on veut garder l'enfant ou est-ce que on voudrait avorter parce qu'ils peuvent s'en rencontrer tôt et ça voilà, nous on voulait garder, donc, et notre mère porteuse elle voulait absolument ça, donc c'est toutes ces petites choses qui misent l'une à côté de l'autre et voilà, ils arrivent à matcher les gens. Et c'est vrai que du coup on s'est très bien entendu tout de suite. Elle avait déjà fait une GPA, elle nous a vachement rassurés. Ouais, c'est-à-dire qu'on l'a vu en Skype, on a vu qu'elle était hyper décontractée par rapport à ça, et nous on était hyper stressés quand le premier Skype, je me souviens, on était surflippée, et elle était vraiment détendue, elle était très timide, mais dès qu'on parlait d'être enceinte, elle, bon voilà, ça a été sa quatrième pregnancy, donc elle était vraiment à l'aise. Elle explique évidemment que pour elle, c'est hyper gratifiant d'aider une famille à se construire. C'est vrai que c'est une sensation hyper forte pour elle. Et puis bon, bah, par ailleurs, c'est 30 000 dollars. Donc voilà. Mais il y a une règle dans la GPA aux États-Unis, c'est que la mère porteuse ne doit pas avoir besoin de cet argent pour vivre sa famille.
Ah bon ?
Voilà, c'est très important. Oui, oui. Elle est professeure. Donc elle gagnait 40 000 dollars par an, je crois, quelque chose comme ça. Et donc c'est de l'argent, ça peut les aider à faire un projet, mais ça doit pas du tout être un moyen de subsistance. Voilà. Donc ça c'est très important, c'est aussi important qu'elle ait déjà des enfants, ça c'est obligatoire aussi, au moins deux enfants. Et ça n'existe plus maintenant une mère porteuse qui est aussi la donneuse d'ovocytes. En fait, c'est-à-dire que la mère porteuse ne doit pas être la mère biologique.
Donc vous avez dû choisir une mère biologique?
Absolument, on a eu recours à une mère donneuse.
D'accord.
C'était avec la clinique de fertilité qui du coup avait une base de données avec les femmes qui étaient prêtes à faire des dons d'ovocytes. Et du coup on a fait la sélection parmi ce fichier.
C'était très dur.
C'était le choix le plus dur de la, du processus.
Et votre don à vous, comment ça se passe alors?
Ben, en fait, on avait tous les deux le souhait d'être père biologique. Donc on a chacun donné. On s'était dit de cette manière, on se laisse le champ des possibles ouvert. On verra de quelle manière après on opère. Mais en tout cas, on avait chacun décidé de donner.
Ouais. On s'est dit, voilà, c'est trop compliqué nous de choisir parce qu'on avait évidemment tous les deux envie d'être père biologique. Et en même temps, on a envie d'être père biologique et on a envie de voir des choses de notre conjoint dans l'enfant. C'est un peu compliqué ces moments-là justement. Donc on s'est dit, Le docteur Esla va choisir. Et voilà, il a choisi Pierre. Et d'ailleurs, c'était quelque chose d'un peu compliqué parce que je me suis rendu compte que c'était pas moi et je me suis rendu compte que c'était plus important que ce que je pensais. J'ai eu peut-être un coup de fierté ou quelque chose comme ça où je me suis dit mais c'est moi le plus âgé, c'est pas juste, j'avais envie avant, etc. Et c'était vraiment au début parce que maintenant, j'ai passé tellement de temps avec Paulin que... Je me pose même plus tellement cette question, vraiment. Et on a eu cette autre question, par exemple, où ils nous ont appelé, ils nous ont dit, mais au fait, on met une fille ou un garçon ? Hein ? Mais on veut pas savoir, on n'a pas envie de choisir si c'est une fille ou un garçon, on n'avait pas envie.
Revenez en effet à chaque fois à ces questions. Qu'est-ce qu'on a envie de lui raconter, qu'on est prêt à lui raconter ? Et c'est pour ça que je pense qu'on a laissé faire le hasard et le médecin décider qui allait être le père, décider du sexe de l'enfant et voilà.
La mère porteuse, elle habitait dans une petite ville des États-Unis, de la côte oréganaise.
Florence. Donc,
Florence, ouais. Florence, ouais. Et donc, c'était vraiment un petit hôpital où il y avait trois chambres. La maternité, c'était trois chambres. Et on était les seuls, évidemment, donc, à accoucher à cette heure-ci. Et il est arrivé à l'heure, hein, le petit Paulin. Il était prévu pour le 7 décembre. Il est arrivé le 7 décembre. Puis voilà, Paulin est sorti. C'était assez émouvant. Il a neigé. Ça, c'est le petit truc. Il neige pas beaucoup là-bas. Et au moment où Paulin est né, il y a eu un petit blizzard comme ça, qui a duré, je sais pas, une heure, quoi. Et ensuite, qui s'est arrêté.
J'ai coupé le cordon. J'y arrivais pas, d'ailleurs. J'ai repris trois fois. Et ensuite, on s'était dit que Antonin, il aurait le bébé en premier. Et il ferait du pot à pot en premier. Et ensuite, je l'ai eu. Ouais. Et ensuite, elle l'a eu. Tout était prévu à la clinique pour que ça se passe bien pour nous tous. Et elle avait une chambre, on avait une chambre à côté avec le bébé. Donc on était tous à l'hôpital, tous ensemble.
C'est qui pour vous maintenant, cette femme ?
C'est quelqu'un d'extrêmement important pour nous. On est toujours en contact avec elle régulier. On a un WhatsApp ensemble, donc on s'envoie des photos. On se Skype à peu près une fois par mois. Et puis, mais ça va à tel point que si on a un deuxième enfant, c'est avec elle ou pas, en fait. C'est voilà, quelqu'un de très très important et qui nous a fait un énorme cadeau. Il n'y a pas de mot, je ne trouve pas le mot qui désigne effectivement Tamara pour nous, c'est Tamara. Voilà.
D'accord. Est-ce que vous savez ce que vous allez raconter à Paulin ?
On n'a peut-être pas encore trouvé tous les mots qui vont être les mots qu'on va choisir le moment venu, mais en tout cas, on ne veut pas qu'il y ait de mystère. On est ses parents. On l'aime, on l'a désiré, et pour ce faire, il y a deux mères, une mère biologique et une mère porteuse qui nous ont aidés. Mais ce ne sont pas ses parents. Ses parents, c'est nous. Voilà.
Bonjour, est-ce que je pourrais parler à Ferial, s'il vous plaît ?
Oui, c'est moi.
Bonjour, c'est Adila.
Oui, bonjour Adila, justement j'allais vous appeler.
Ce que je fais n'est rien comparé au nombre de kilomètres, d'interdits et de tabous qu'ont dépassé Pierre et Antonin. Mais je le fais pour les mêmes raisons qu'eux. J'ai envie d'avoir une famille. Pas celle qui figure dans les livres d'enfants. Une famille qui me ressemble, bordélique, en retard, mixte, adoptive. Ma famille.
J'ai des nouvelles concernant vos embryons.
Mais pour ça, il faut que la fécondation marche.
Il y a eu fécondation d'un ovocyte et Capri est maintenant un embryon. Donc, on va voir comment il évolue ces jours-ci.
D'accord.
Donc, là, pour l'instant, il n'y a pas d'informations concernant la date de transfert.
D'accord.
Donc, dès qu'on en a, je vous tiens au courant, d'accord ?
D'accord, ok. Bon, je vous remercie.
De rien.
J'ai franchi un cap. Pour la première fois, on ne parle pas de cellules, mais de la promesse d'un être humain. J'essaye de garder mon calme et j'appelle ma mère.
Salut.
Coucou, ça va ?
Et toi, c'est à toi que je vous pose cette question-là ?
Écoute, ça va à peu près. J'ai rendez-vous à 13h pour faire le transfert.
D'accord, ok. Ça va, t'es pas trop inquiète ?
Non, j'essaye de pas trop m'emballer en fait. Tu vois, parce
oui,
que.
C'est vrai que c'est ça le plus dur, tu as raison.
Ils ne savent pas, en fait, la qualité de l'embryon, ils la connaissent que ce matin, il faut qu'ils l'observent pendant 24 heures pour la connaître. D'accord. Et comme il n'y en avait qu'un.
D'accord.
Là, j'ai quand même 9 chances sur 10 de le perdre dans les 15 jours.
Ah oui, 9 chances sur 10 ?
Bah, à peu près, quoi.
Tu verras bien.
Ouais, je verrai bien.
Allez, je t'embrasse.
Bisous.
Bisous.
Ciao. Ça va.
Ça va bien.
Et vous ?
Je suis le docteur Spice.
Oui, on s'est vu hier.
Oui. L'infirmière, bonjour. Le biologiste et l'infirmière, d'accord ?
D'accord.
Donc, nous avons ici la photo de votre embryon.
Pourquoi il y a une petite boule à côté?
Parce qu'il y a une qui...
Ce sont des cellules externes à l'embryon.
Ce sont les cellules externes, donc c'est normal. Ce sont les restes.
D'accord. Et ça, c'est une photo d'aujourd'hui?
Oui.
Et alors, du coup, vous trouvez qu'il est de bonne qualité ou
de qualité et de catégorie D. Ah, ben c'est D, c'est catégorie D.
Ah, c'est la moins bonne catégorie.
Oui.
D'accord.
Mais la meilleure place pour cet embryon est dans votre utérus.
D'accord.
C'est mieux dans l'utérus que dans l'incubateur.
Ok. Très bien.
D'accord. Okay. Donc, on y va?
Ouais.
Oui.
Okay. Cette notation qui va de A à D me rappelait quelque chose. Et puis je me suis souvenue. C'est exactement les notations que donnait Standard & Poor's pour évaluer la fiabilité financière d'un pays.
Donc ça, c'est les instructions après le transfert.
Du coup, j'ai vérifié. En Europe, même la Grèce, c'est limité à C. Le seul pays qui est plongé jusqu'au D, c'est la Moldavie.
D'accord.
J'ai repris l'avion pour Paris en murmurant à mon petit Moldave. Accroche-toi, tu vas voir, c'est chouette la vie.
Je vous salue.
Merci beaucoup.
Bah, je vous en prie. On passe les gars pour que... Merci, c'est gentil. Et j'espère que ça va fonctionner.
Eh ben, moi aussi. Can you feel the vibration waving through me? Another kind of sensation. See, can you see? See how I operate now? How modulate now? Can you feel the vibration waving through me? PMA hors la loi, c'est une série d'Adila Benedjaizou réalisée par Cécile Lafont avec un coup de main de Yaël Mandelbaum. Aujourd'hui, c'était le troisième épisode, mon embryon moldave. Merci à Feriel, Raquel, au docteur Izquierdo, à la clinique Procréatech, à Pierre, Antonin et à Paulin. Cette émission a été diffusée, je le précise, pour la première fois en septembre 2018. Et si vous écoutez toute la série jusqu'au bout, eh bien, vous aurez des nouvelles de nos personnages, d'Adila, etc., etc. Voilà, merci aussi, comment les oublier, à Sandrine Chaperon, Camille Richir et Sarah Djeriwi. Can you feel the vibe?